Vous êtes toujours sur Silab et Julien, tu laisses les municipales de côté pour t'intéresser à présent à un projet humanitaire mené par des étudiants en ostéopathie de Carlanne.
Solidarité, soins pour tous, développement de l'ostéopathie. Les objectifs ne manquaient pas pour la délégation de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, partie pour 2 semaines au Vietnam.
L'association Ostéopathie Solidarité Vietnam propose pour la 3e fois à une dizaine d'étudiants de l'Institut d'ostéopathie la possibilité de partir en mission solidaritaire et humanitaire au Vietnam. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Valentine Brass. Bonjour.
Bonjour.
Tu es étudiante en 4e année à l'Institut d'ostéopathie de Rennes et également sur le plateau Antoine Robert. Bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es diplômé en ostéopathie, ancien étudiant à l'Institut de Rennes et fondateur de l'association Ostéopathie Solidarité Vietnam. Permettre à la population vietnamienne d'avoir accès à des soins ostéopathiques et offrir également une expérience humaine aux étudiants, voilà le but même de l'association. Antoine, comment est-ce que déjà tu as eu l'idée de mettre en place un projet humanitaire comme celui-ci et pourquoi particulièrement avec le Vietnam ?
Alors donc comme tu le disais si bien, je suis issu de l'école, donc j'ai été diplômé en 2015 et suite à ce diplôme, j'avais une vraie frustration pendant mes études, c'était de ne pas avoir touché beaucoup de patients, pas beaucoup non plus d'enfants, on n'a pas l'occasion de traiter beaucoup d'enfants malheureusement, et il n'y a pas Erasmus dans notre cursus malheureusement, donc j'avais ce manque un petit peu d'étrangers. Donc du coup je suis parti pendant 7 mois en Asie, j'ai fait plusieurs pays, dont le Vietnam, et je suis tombé complètement amoureux de ce pays. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs orphelinats au Vietnam, ce qui m'a donné ensuite envie au retour de créer quelque chose avec l'école pour permettre aux étudiants de ne pas connaître la même frustration que la mienne.
Et comment ça s'est passé justement en amont pour mettre en place ce partenariat ? J'imagine que contacter les structures au Vietnam, ça n'a pas
c'est
été
pas
super facile.
Ouais, non, c'est pas super facile. En fait, on a été aidé par une association qui s'appelle Poussière de Vie, qui en fait depuis des années aide plusieurs orphelinats au Vietnam, qui nous permettent en fait de partir, d'avoir des autorisations de la police, parce que c'est pas un pays où il est facile d'entrer, ni de sortir du coup. et du coup voilà, ils nous ont permis de pénétrer donc au sein des orphelinats, alors c'est exactement à Can Thum au Vietnam, donc c'est en plein milieu du Vietnam, et donc du coup de pouvoir pratiquer à la fois sur des enfants, mais aussi sur des personnes des villages environnants.
Et ils ont accepté direct ?
Bah, au début, oui, ils ont accepté directement parce que avoir des étrangers comme ça, d'autant plus d'Europe, venir aider, ils sont toujours preneurs. Après, ils ne connaissaient pas du tout l'ostéopathie. Donc, c'est vrai que ça a été compliqué de leur expliquer. Mais une fois qu'ils ont compris ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait leur apporter, maintenant, ils demandent tous les ans à ce qu'on vienne. Si on pouvait venir plus que 2 semaines, on viendrait plus que 2 semaines. Mais voilà, ils sont très demandeurs.
L'idée aussi, c'était d'apporter des soins à des populations qui, bien souvent, souffrent à cause d'une santé ou d'un système de santé qui n'est pas toujours performant dans des pays comme le Vietnam.
Oui, complètement, oui. Alors, faut savoir qu'au Vietnam, et notamment là où on va à Can Thum, il y a une minorité ethnique qui s'appelle les Banars, qui subit un vrai racisme de la population vietnamienne et qui, du coup, n'a pas accès à des soins, ou alors c'est très, très onéreux. Donc voilà, donc du coup, effectivement, le système de soins est très limité pour eux. Et même de manière globale, j'ai envie de dire, les Vietnamiens n'ont pas tout ce qu'on pourrait avoir ici en France.
Ça n'a pas été trop difficile de dépasser la barrière de la langue, sauf si tu parles vietnamien, sinon de...
Alors, il faut savoir que là-bas, on a un traducteur qui parle très bien français-anglais. Le français est pratiqué par les Vietnamiens assez âgés. Après, on a la langue des signes, qui est pas mal, pour se faire comprendre. Mais ouais, c'est pas évident. Au début, c'est pas évident, mais justement, ça permet aux étudiants de travailler leur palpation, et du coup, ils communiquent avec leurs mains.
Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir de ton côté, peut-être Valentine, à cause de la langue, une certaine appréhension à pratiquer sur des Vietnamiens ?
Je pense que la barrière de la langue, ça fait aussi que, comme l'a dit Antoine, on est obligé de se baser sur le ressenti, ce qu'on va sentir nous dans nos mains, et aussi sur le regard des patients. Et on va ressentir ici en France, quand on est à la clinique, on a toute une phase d'interrogatoire en début de séance où on doit recueillir des informations sur la douleur du patient et ses antécédents. Là, sans ça, on est vraiment obligé de se focaliser que sur ce qu'on va ressentir. Voilà.
Le protocole est différent du coup là-bas pendant les séances ?
Ouais, légèrement différent parce que comme le précisait très justement Valentine, on n'a pas cette phase d'anamnèse, donc cette phase d'interrogatoire. Et donc du coup, on passe presque directement au test ostéopathique. Donc forcément, l'approche est totalement différente. Ouais.
Le programme sur place, du coup, ça sera en grande partie des consultations pratiquées par les étudiants, c'est ça?
Oui.
Et aussi bien enfants, adultes ou personnes âgées?
Exactement.
D'accord.
Tout âge.
Et pendant vos études, justement, Valentine, est-ce que vous vous êtes formée à manipuler tout type de profil? Visiblement, pas trop les enfants.
On voit de tout, mais on voit, je pense... Moi, pour ma part, je viens de commencer la clinique, mais je vois plus de personnes âgées et de gens pas âgés. On voit pas beaucoup d'enfants du tout. On a des consultations magistrales où on voit des consultations pédiatriques, mais pas nous, personnellement, en individuel, en clinique, non, on n'en voit pas beaucoup.
Et est-ce que ça peut porter défaut, ça, à l'arrivée dans le monde du travail, d'avoir à manipuler des enfants où, malheureusement, on est un peu moins bien préparé que pour des personnes âgées?
Tu veux dire par rapport au fait qu'à l'école, il n'y a pas beaucoup de...
Ouais. Oui,
bah, c'est vrai que quand on commence l'activité d'ostéopathe, c'est pas les premiers patients qu'on reçoit, les enfants, parce que déjà il y a une peu de connaissances de la population par rapport au fait qu'on peut soigner des enfants. Et puis il faut que les gens fassent confiance aussi, et en général ils font plutôt confiance pour leurs enfants à des ostéopathes expérimentés. Donc oui.
Ça va être quoi le rôle des professeurs qui accompagnent les étudiants lors des consultations, ou plutôt renforcer les liens du partenariat qui a déjà été créé?
Il y a un mélange de tout, parce que quand on part comme ça à l'autre bout du monde, dans des conditions très particulières, on ne peut pas avoir le rôle d'un prof qu'on aurait en France. On est vraiment dans des lieux où on travaille par terre, à même le sol. Il y a la barrière de la langue, donc on crée forcément des liens avec les étudiants. Et du coup, ce rapport fait que on communique entre professionnels, ou en tout cas entre futurs professionnels pour les étudiants, et c'est quelque chose de très agréable, du coup.
Je me suis posé la question de savoir si les pathologies rencontrées là-bas étaient similaires à celles qu'on pouvait trouver sur des patients en France, ou au contraire si c'est l'occasion de pratiquer d'autres cas qui sont complètement différents de ce qu'on peut avoir ici.
Alors, on retrouve des choses similaires, effectivement, mais l'origine de vie veut qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas en France. Notamment, il faut savoir que là-bas, ils mangent du riz matin, midi et soir, et que du coup, leur abdomen est très très dur à cause de ça. Donc forcément, c'est des choses, par rapport à l'hygiène de vie, en tout cas, on n'a pas les mêmes pathologies.
Au-delà de cette action humanitaire, c'est aussi l'occasion, je pense, pour les étudiants et étudiantes de découvrir une culture méconnue pour la plupart d'entre eux.
Totalement. Enfin, d'un point de vue culturel, c'est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et c'est vrai que je le dis et je le répète à chaque fois, c'est une expérience ostéopathique absolument géniale pour les étudiants, parce qu'ils pratiquent sur de nombreuses personnes, ils pratiquent sur des enfants, des adultes, des personnes âgées. Et puis il y a ce côté humain, humanitaire, qui fait qu'on est au contact même de la population. Enfin, on a vécu des soirées, c'était plus en soirée bizarrement, on a vécu des soirées très très sympas où ils nous intègrent vraiment à leur vie. Ils nous font à manger, on était une dizaine, ils nous font à manger pour 40. Il y a des vrais échanges, alors comme tu disais, là-bas de la langue c'est compliqué, mais c'est des échanges humains, des vrais échanges. Le chef du village là-bas s'appelle Monsieur Houille, déjà rien que ça, ça fait sourire. Il s'appelle Monsieur Houille, il nous invite à la jarre, donc la jarre c'est une jarre d'alcool qu'il nous invite à boire, et du coup tout le village passe sur cette jarre, et c'est absolument génial, et on chante au coin du feu, enfin, des chansons comme Aline, je sais pas si tu vois, de Christophe, le Mr. Will connaissait Aline de Christophe, donc c'est un truc de fou.
Est-ce qu'il y a eu des, je suppose que tu as eu des retours sur les deux précédentes éditions, aussi bien de la part des étudiants que du personnel là-bas qui vous a accueilli?
Ouais. Alors bah du coup sur la première année, le retour était excellent, autant des étudiants que de là-bas du personnel, sachant que là-bas en fait on travaille dans un orphelinat qui est géré par l'église, donc c'est essentiellement des curés et des sœurs auxquels on a affaire. Et du coup, au début, ils ne savaient pas trop ce qu'on pouvait faire, donc le retour était bon, mais assez mitigé. Et là, la deuxième session, il y a eu un retour vraiment excellent, parce qu'ils ont compris ce qu'on pouvait faire avec nos mains et ce qu'on pouvait leur apporter. Et pour les étudiants, du coup, on a eu accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de pathologies. Du coup, ils en sont ressortis aussi bien plus grandis.
Un grand enjeu du coup pour toi, Valentine, pour cette troisième édition, de dire il faut au moins faire aussi bien que ce qu'il y a eu l'année dernière, j'imagine.
Oui, c'est ça, et là, avec le retour, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec les étudiants qui ont participé à la deuxième édition, qui viennent de rentrer, et on sent vraiment qu'ils ont grandi et ils sont changés avec cette expérience. Déjà l'expérience ostéopathique, en ayant traité énormément de personnes en peu de temps, Et aussi l'expérience humaine, comme le disait Antoine. Moi, je suis amie avec ceux qui étaient à Quantum. Et leurs soirées, les vidéos qu'on a pu voir pendant qu'ils y étaient, ça avait l'air complètement fou.
Ouais, c'est ça, c'est les deux côtés. C'est oui. Ce côté, bah, c'est bien parce que ça va nous perfectionner, on va peut-être pratiquer ce qu'on ne fait pas habituellement. Et 15 jours dans un environnement totalement inconnu, et bon, ça ne peut que être enrichissant, je suppose.
Oui, c'est ça.
Il y a également, j'ai vu qu'il y avait également de la formation du personnel médical sur place. Ouais. Ça, c'est peut-être plus du coup avec le personnel, enfin les encadrants qui arrivent.
Ouais.
Parce que je me suis posé la question, c'est que l'ostéopathie, de ce que tu disais, visiblement, c'est une pratique médicale qui n'est pas du tout répandue au Vietnam.
Très peu, très très peu. En fait, là-bas, ils ont ce qu'on appelle des physiothérapeutes, ce qui correspondrait à nos kinés ici. Donc voilà, donc l'ostéopathie est très peu connue. Ils pourraient avoir ce qu'on appelle des airs bouteux en France, donc c'est assez violent. Mais non, c'est pas très connu. Et en fait, effectivement, donc comme on est sur deux sites, donc sur l'orphelinat de Quantum, mais aussi sur l'hôpital mère-enfant de Da Nang, le personnel là-bas est demandeur de formation. Et a priori, très prochainement, on va pouvoir commencer à essayer de former des médecins, parce que former en formation initiale, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. En France, l'ostéopathie a commencé comme ça. Ce sont des médecins, des kinés qui se sont formés à l'ostéopathie pour ensuite avoir des ostéopathes sortis de formation initiale. Donc je pense que dans un pays comme le Vietnam, il faut faire les choses dans l'ordre et du coup commencer d'abord par les médecins et les kinés.
Donc typiquement des médecins qui assisteraient à des consultations faites par les étudiants.
Oui, alors il y a même plusieurs choses qui sont évoquées. Ça, c'est plutôt l'école d'ostéopathie de Rennes qui va gérer ça, mais il y a même la possibilité de voir arriver deux médecins vietnamiens au sein de l'école pour avoir une formation directe au sein de l'école.
Du côté des étudiants, on en a un peu parlé, Valentine, mais pourquoi est-ce que toi tu as voulu t'engager en particulier dans ce projet-là, même si on l'a compris, c'était à la fois le côté humanitaire et le côté pratique, et aussi le côté voir un pays qu'on ne connaît pas.
Oui, alors moi j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire, et là Antoine avec son association, il nous offre l'opportunité de le faire en tant qu'étudiant. Donc, ce qui est plus simple parce que forcément, on peut pas. Quand on ouvre un cabinet, on n'a pas forcément énormément de patients. Et donc, on ne peut pas forcément se dire allez, là, je pars un mois et je fais de l'humanitaire. Parce que ça veut dire pas de revenus et au début, c'est compliqué. Là, en tant qu'étudiant, on part pendant nos vacances. Et voilà, ça nous apporte des choses. Dans le toucher, je pense que ça nous apporte une maturité et une confiance aussi. Parce que là, on va toucher des gens, on saura pas vraiment ce qu'ils ont, où ils ont mal. Et on va juste en les touchant trouver la source du problème et du coup ça va nous rassurer dans notre palpation et
développer des compétences peut-être que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion de développer ici.
Voilà, et du coup voilà, et surtout aussi pour l'aventure humaine que c'est, voilà.
Comment est-ce que sont sélectionnés les étudiants qui participent au projet et au programme du Vietnam ? Je suppose qu'il y a beaucoup de candidats, visiblement une dizaine d'appelés, d'élus. Comment ça se passe du coup ? Grosse pression là.
Ouais,
gros,
ça c'est la question qu'il ne fallait pas poser.
C'est sur le volontariat, la motivation.
Alors, bon, disons que par rapport à la sélection, effectivement, tout le monde ne peut pas partir. Le problème principal de faire partir tout le monde, c'est un problème de budget. C'est moche à dire, mais c'est la réalité des choses aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 27 étudiants qui désirent partir. L'année dernière, on est parti à 14. Donc voilà, ça va être très compliqué de faire partir les 27. Sauf s'il y a un afflux de dons rennais. Mais donc voilà, donc après, la sélection se fait évidemment sur la motivation. L'année dernière, c'est l'école qui a choisi les étudiants. Cette année, ce sera a priori l'école aussi qui va choisir, même si j'aimerais que les tuteurs puissent aussi donner leur avis sur la sélection. Donc voilà, donc c'est évidemment la motivation, c'est évidemment sur les prestations à l'école. Voilà, un étudiant qui ne vient jamais en cours, c'est compliqué de justifier le fait qu'il puisse partir. Un étudiant qui n'est pas respectueux avec ses professeurs, c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc c'est un ensemble de critères qui fait que...
L'implication peut-être aussi dans le projet de,
oui.
Un étudiant qui arrive 15 jours avant pour dire...
Exactement,
les gars.
Je vois, par rapport à cette année, il y a déjà des étudiants qui se sont déjà l'année dernière investis alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne partiraient pas en 2019, mais potentiellement en 2020. Donc ça, forcément, ça pèse dans la balance.
À la Toussaint, du coup, les étudiants prendront l'avion direction le Vietnam, accompagnés de 4 de leurs enseignants. Je ne sais pas, c'était ça en tout cas l'année dernière.
On était 5.
5 l'année dernière. Ouais. La mission donc, se déroulera sur 2 sites différents, comme tu le disais, l'hôpital public mère et enfant de Da Nang, à plus de 700 km de la capitale, et l'orphelinat Kontum, situé à presque 1000 km de Hanoï. On imagine que du coup, tout cela coûte cher, visiblement, comme tu le disais. Est-ce que vous organisez des événements en amont du départ pour justement récolter des fonds?
Alors du coup, on a créé plusieurs pôles dans l'association avec les étudiants. On a un pôle communication, un pôle entreprise, un pôle événement, un pôle qui s'occupe de rechercher des fonds au niveau des mairies et de toutes les choses comme ça, et un pôle vente. Du coup, on organise régulièrement des ventes, nous, à l'école, de petits gâteaux, de crêpes, de voilà. Avec les événements, on fait aussi, on va au match de basket de l'URB, où on récolte un peu de fonds là-bas aussi avec nos ventes. Et au niveau des entreprises, on cherche des entreprises qui veulent bien donner. Voilà.
Du mécénat, des bons mécènes donc.
C'est exactement. Ça.
J'ai vu que l'année dernière, il y avait une cagnotte en ligne qui avait été créée. Est-ce que c'est également cas cette année?
Oui.
Et si oui, de combien est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir...
On a besoin de temps de ce qu'on peut avoir. En fait, il n'y a pas de limite parce que l'objectif, c'est quand même de pérenniser le projet. Donc plus on aura de fonds et plus on pourra le pérenniser. Effectivement, il y a une cagnotte en ligne alors qu'on peut retrouver sur Hello Asso. Donc voilà, en recherchant directement OSV ou Ostéopathie Solidarité Vietnam. Voilà, sur le site OSV aussi, on peut tomber sur le lien de la cagnotte.
On mettra tous les liens sur le site de SILAB, évidemment. Merci à vous deux, Valentine Brasse, je le rappelle, tu es étudiante en 4e année à l'Institut d'Ostéopathie de Rennes. Et merci également à toi, Antoine Robert, tu es ostéopathe et fondateur de l'association Ostéopathie Solidarité Vietnam.
Merci.
Merci.